Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lola. Je suis en terminale au lycée Saint-Pierre à Bourg. Mes camarades et moi, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission. Nous remercions Jules, le compositeur de ce générique. Nous allons parler de la censure, et plus particulièrement de l'autocensure. On en a parlé ensemble, et là, même conclusion. À un moment ou à un autre, on a préféré se taire plutôt que de parler. Pas par fainéantise, mais pour se protéger. Au programme de notre émission, des interviews avec nos invités, Vincent Rochleka, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse, et Rosra Omani, journaliste afghan en exil en France. Mais aussi des témoignages et des fictions. Vous allez découvrir comment la censure et l'autocensure se manifestent dans la vie de tous les jours.
Radio B.
Corentin, Jules et moi-même, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de Bourg pour connaître vos avis sur ce thème. Pour vous, c'est quoi la censure ?
La censure, c'est empêcher les idées d'être déclarées, d'être dites. Voilà, c'est ça, c'est empêcher.
C'est l'interdiction de dire ce qu'on pense.
Pour moi, la censure, c'est se priver de faire ou de dire quelque chose par rapport aux mœurs, aux tabous, tout ça. Par rapport à l'opinion des gens et pas faire, par exemple, aller contre sa volonté par rapport à ce que les gens vont penser.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous interdire de dire quelque chose, de faire quelque chose ou de porter quelque chose ?
Bah, par exemple, concernant la tenue vestimentaire, par exemple l'été, ça m'est déjà arrivé de ne pas vraiment oser sortir avec un short assez court par rapport du coup, au regard des autres.
Non, je ne me sentirais pas libre de tout penser oui, de tout dire non, parce que ça peut porter atteinte à ce que peuvent penser les autres. Et de tout porter non plus parce que on est en tant que femme, on est dans une société où le regard est beaucoup porté sur nous et nos attraits physiques. Donc je me sentirais pas moi à l'aise de tout porter, même si je peux, vis-à-vis de ce regard-là et vis-à-vis de ce que moi je peux ressentir après en tant que femme. Je trouve ça assez dégradant. Donc.
Oui, je pense que tout le monde s'autocensure parce qu'on est en société. Si on s'autocensurait pas, moi je dirais à la fille là-bas que j'aime pas son jean et qu'elle a acheté dans un magasin que je considère moyen. Il faut de l'autocensure. Après, je pense qu'il y en a bien trop. Parce qu'on est dans une société assez hypocrite, assez fausse, moi je trouve. Donc oui, il y a de l'autocensure partout. Voilà, pour répondre à la question.
Pour interdire des choses, je m'en interdis parce que j'ai pas 20 ans non plus. Les mini-jupes, les hauts talons, enfin, toutes ces choses-là. Et m'interdire quelque chose, ben, jusqu'à présent, pas trop.
Enfin, je pense que l'âge nous autocensure, voilà. M'autocensure. Je me permets pas de m'habiller, oui, comme je me serais habillée à 20 ans.
Est-ce que vous vous sentez libre de tout faire, de tout dire ou de tout porter en France ?
J'aurais certaines retenues sur peut-être des paroles, voilà. Faire attention des fois à ce qu'on dit, selon où on est. Par exemple, ne serait-ce que par rapport à la religion, je n'irais pas critiquer quelqu'un qui rentre dans une église ou dire des choses, voilà. Et pour toutes les religions, pareil, hein, c'est, voilà. Je me l'interdis à moi.
Moi, ça m'est arrivé personnellement, dans le monde du travail, oui, de ne pas oser dire certaines choses, de peur d'être, comme on dit, mal vu. Voilà, donc on est obligé de réfréner, du moins à mon époque. Je ne sais pas si c'est toujours valable maintenant.
Est-ce que vous êtes déjà interdit de faire quelque chose, dire quelque chose ou porter quelque chose ?
Pas trop, non. Non, parce que j'ai pas trop de filtres. Je dis ce que je pense, alors c'est pas toujours bien perçu, mais bon.
Alors selon vous, pourquoi est-ce que les gens font cet acte d'autocensure ou de censure ?
Parfois par peur du ridicule s'il s'agit d'un vêtement, parfois par peur de représailles s'il s'agit d'exprimer une opinion, par exemple dans le milieu du travail.
L'État, effectivement, est le garant de la liberté, mais aussi le garant de la censure.
Respecter les conventions sociales, ça permet de vivre en intelligence, en société.
Alors je pense que la plupart du temps, c'est des choix inconscients. C'est sur le coup, mais je pense que c'est quand on est gêné, par exemple quand on parle à une personne, là je m'autocensure, je peux pas. Par exemple j'ai dit merde tout à l'heure, alors j'aurais dû dire mince, et je me suis censuré parce que j'aurais dû dire mars parce que c'est la vidéo, enfin c'est le. Vous m'enregistrez, c'est pour un travail de cours j'imagine. Et du coup, donc faut que je m'autocensure, du coup ouais, je me base sur des critères, ça dépend des gens, ça dépend du contexte. Je sais pas si ça répond parfaitement à la question, c'est ça, c'est ce genre de réponse qu'il faut.
Merci aux Burgiens pour leur temps et leurs réponses. Vous allez maintenant entendre une fiction réalisée par Alison, Mélodie et moi-même. Elle se déroule dans un magasin.
Bonjour.
Bonjour madame, je peux vous renseigner ?
Oui, je voudrais savoir si vous avez ce haut en M.
Non, désolé, on l'a qu'en S et en XS.
J'ai vraiment une tête à rentrer dans du XS. La dernière fois que j'ai mis un haut aussi moulant en S, un petit garçon a demandé à sa mère si j'étais enceinte. C'est mort, je prends plus large. Merci, je vais aller essayer autre chose.
C'est très joli. À votre place, j'essaierai celle-là aussi.
Qui est un peu plus longue, parce qu'à mon âge, ça pourrait être mal interprété. C'est vrai que j'ai plus 15 ans. Mais elle est jolie, cette robe. Oh, et puis, je vais essayer l'autre. Parce que si c'est pour qu'au prochain repas de famille, mon oncle me redemande qui j'essayais de draguer à mon âge avec ma mini-jupe, ça va bien 5 minutes. Hein.
Ça vous va très bien.
Et puis ça cache ma peau d'orange.
Vous avez essayé le haut ?
Oui, mais je ne pense pas que je vais le prendre.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que si c'est pour qu'on me redonne des surnoms comme quand j'étais au collège, du style « Eh, la planche à pain !» ou des remarques comme « Pourquoi tu mets des soutifs et si t'as pas de sein ?» Ça ira, merci.
Madame ?
Pardon, j'étais dans mes pensées. J'aime pas la couleur.
Pas de soucis, je vous laisse faire votre choix. Bonjour, ça s'est bien passé ?
Oui.
Vous n'avez pris qu'un sweat à capuche. On a de jolies jupes en stock. Vous ne voulez pas essayer ? Nous l'avons entendu, la censure peut être vécue par tout le monde dans la vie de tous les jours. Passons à l'interview de Ras Romani, journaliste et romancier afghan, menacé par le régime des talibans pour ses écrits. Il est réfugié en France depuis l'automne 2015. Aujourd'hui, il est en résidence à Radio B, et ceci jusqu'à la mi-juin. À travers ce témoignage, nous verrons que la censure peut également devenir un enjeu de société, voire une question de vie ou de mort. Une interview réalisée par Corentin et Benoît.
Pour la majorité des Français, l'Afghanistan, c'est un pays où on ne peut pas s'habiller comme on veut, exercer sa religion librement. Est-ce que c'est vrai ?
Ah, c'est une question difficile parce que vous savez que c'est une partie de mon pays. Ça veut dire que maintenant, heureusement, on a la liberté de s'habiller comme on veut. Mais il y a des provinces en Afghanistan où on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas écrire comme on veut, on ne peut pas agir comme on veut, on ne peut pas penser comme on veut. Parce que il y a toujours des difficultés, il y a la religion qui empêche les gens. En général, je peux vous dire que la vie en Afghanistan, ce n'est pas noir et blanche. C'est comme partout dans le monde. Le seul problème, c'est qu'il y a les extrémistes et c'est les extrémistes qui sont toujours dans les médias. Et malheureusement, c'est l'image de mon pays quand vous êtes en dehors.
Et donc pour vous, Ras Romani, qu'est-ce que c'est la censure ?
La censure, c'est manque de liberté en général, mais spécialement manque de liberté d'expression et de pensée. Quand vous n'avez pas le droit de penser comme vous voulez, parce qu'il y a un regard ici qui vous contrôle. Et quand vous n'avez pas la liberté ou le droit de s'exprimer comme vous voulez, ça veut dire qu'il y a une autorité qui vous contrôle, qui vous empêche de penser, d'agir, s'exprimer librement.
Et est-ce que la censure, elle est très présente en Afghanistan?
Selon la constitution de ce pays, non, la censure n'existe pas. Ça veut dire que vous pouvez publier ce que vous voulez. Le problème, c'est que dans la pratique, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que moi, quand je publie un article sur la corruption dans le gouvernement ou sur la religion, sur l'islam politique, sur le salafisme, oui, bien sûr, il y a la censure. C'est le média qui vous... c'est le responsable des médias qui vous...
qui vous empêche de
publier. Qui vous empêche de publier cet article. Parce que cet article, il peut créer des problèmes pour eux, pour les responsables des médias.
Donc, elle vient d'abord de l'intérieur du média en lui-même ?
La censure,
oui.
Bah, une partie de la censure, oui, bien D'accord. sûr. Mais l'autre partie, c'est le gouvernement, je ne sais pas, les règles sociales, spécialement les règles sociales. Imaginez que moi, dans une société religieuse, je n'ai pas toujours le droit de critiquer certaines traditions, par exemple, ou certaines règles religieuses, parce que ça, c'est déjà un acte révolutionnaire et mal vu.
Vu que vous dites que la censure n'existe pas sur le papier, est-ce que les citoyens y perçoivent cette censure ?
Ben oui, bien sûr. Il y a beaucoup de moyens de censure. La religion, par exemple, c'est un moyen. C'est pas sur le papier, vous pouvez pas trouver la religion comme on la connaît dans la société, mais c'est enraciné une partie de la vie des gens. Ça veut dire que ils pensent religieusement. C'est à cause de la religion qu'ils peuvent pas dire ou faire ce qu'ils veulent.
Et alors vous, Kosromani, dans votre travail de journaliste engagé, vous l'avez perçu cette censure ? Vous avez été victime de cette censure ?
Bah oui, bien sûr, plusieurs fois. Moi, quand j'ai travaillé à une radio en Afghanistan, j'étais en train de réaliser une série de reportages sur l'expérience de la modernité en Afghanistan. Et parfois... j'ai rencontré la censure parce que le responsable de cette radio-là, il me disait que ça, c'est un peu dangereux, tu dois être un peu vigilant, on doit couper cette partie de ton article. Ça, les censures, ça, c'est la censure. Mais aussi, en tant qu'écrivain, vous savez, moi, je ne pouvais pas publier ce que je voulais. Le titre d'un de mes livres, c'était un titre un peu contre la religion. Et moi, j'ai discuté avec mes amis, ils m'ont dit non.
C'est trop dangereux.
Tu dois le changer. Et j'ai changé le titre.
Si vous dites quelque chose contre la religion ou contre l'État, il va avoir des sanctions vis-à-vis de vous ou pas ?
La sanction principale, c'est la mort. Un jeune homme, un étudiant, il a trouvé un article sur le regard d'islam sur les femmes. C'était l'article. Et cet homme, il était condamné à mort par le tribunal de Kaboul. Et c'est grâce à la communauté internationale, je ne sais pas, à ONG, à quelques ambassades en Afghanistan, qu'il a quitté le pays clandestinement. Et maintenant, il est au Canada.
La sanction, c'est directement la mort ou est-ce qu'il va avoir des paliers, une première sanction, puis une deuxième, puis une troisième ?
Moi, je pense que c'est la mort. Parce que si vous critiquez quelque chose comme l'islam, c'est pas du tout supportable pour les gens. C'est pas du tout tolérable. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont pas comme ce sujet. Par exemple, si vous critiquez la corruption, vous pouvez être en danger, mais c'est pas le danger de mort, bien sûr.
Vous nous avez dit donc que dans la constitution de l'Afghanistan, il n'y avait pas de loi qui mettait en place une censure. Pourtant, ce jeune homme dont vous nous avez parlé, il a été condamné à mort. Au titre de quelle loi est-ce qu'il a été condamné à mort ?
Je vous ai dit que la censure n'existe pas en général, selon la constitution, mais il y a une condition. Et c'est les écrivains, les médias doivent respecter les règles de l'islam. C'est la condition.
Donc la limite, c'est la religion.
C'est ça, la limite, c'est la religion.
Est-ce que vous êtes déjà interdit de dire quelque chose, d'inclure un élément dans un de vos articles pour être sûr d'être publié après ?
Quand j'étais à la radio, pour la série
sur la modernité.
Sur la modernité, oui, j'étais deux, trois fois obligé de couper, supprimer une partie de mon article, de mes articles, parce que ils étaient un peu contre l'opinion générale des gens.
Vous pensez que vous avez eu raison de le faire ou est-ce que vous regrettez aujourd'hui ?
C'était le seul choix. Que
vous n'aviez pas le choix.
J'avais pas le choix.
Et c'est quoi le positionnement des éditeurs qui publient vos écrits engagés, vos romans ? Ils prennent un risque en publiant vos romans ? Comment ça se passe pour eux ?
Oui, bien sûr. Ils sont sous les menaces comme les écrivains. Mais je peux vous dire que pour les éditeurs, pour les maisons d'édition, ils sont soutenus par les ambassades, je ne sais pas, les ONG, même le gouvernement.
Donc quand un livre est publié, c'est vraiment l'écrivain qui est visé en particulier avant l'éditeur.
C'est ça. Même, je peux vous dire que c'est le seul cible, l'écrivain. Pas le journal, pas l'édition, pas la télévision, pas la radio. C'est le journaliste ou l'écrivain.
Aujourd'hui, donc, à cause de vos écrits, vous vous retrouvez en France. Est-ce que du coup, vous regrettez parfois d'avoir... vous dites peut-être que là, j'aurais préféré ne pas le dire. Comme ça, je pourrais toujours être chez moi en Afghanistan.
Non, je ne regrette pas parce que moi, je suis comme ça. Et j'ai fait ce que je voulais. Et je suis content, même si
ça a un prix.
Oui.
Est-ce que vous pensez que le rôle d'un journaliste, parfois, c'est de s'auto-censurer ?
Nous sommes obligés de respecter certaines choses, certaines règles, je ne sais pas quoi. Et donc, moi, en tant que journaliste écrivain, oui, j'ai beaucoup, et plusieurs fois expérimenté l'auto-censure. Même maintenant que je vis en France... Il y a des sujets que je ne peux pas
évoquer
parce que, vous savez, moi je pense que si je parle sur la sexualité, je ne sais pas quoi, oui, ça c'est pas très facile pour moi. Il y a quelque chose qui me contrôle. Il y a peut-être l'habitude, peut-être le respect des autres, peut-être la règle sociale. Donc moi je pense que c'est normal.
Merci à Ars Romani pour le temps qu'il nous a accordé et pour son témoignage marquant. Il est maintenant temps de passer à une deuxième fiction réalisée par Valentin, dénonçant la censure dans le monde du journalisme.
Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? J'espère que je ne vais pas encore me taper l'après-midi à la maison de retraite pour écrire un papier sur le nouveau club de belote dont tout le monde s'en fout. Ah, tiens. Voyons voir. Quoi ? Non, c'est pas possible, il est pas sérieux. Il a le droit de me demander d'écrire ça ? Comment je vais faire pour écrire un truc pareil sans prendre parti ? À tous les coups, je vais encore me retrouver avec une association de tarés voulant que je quitte la rédaction. Bon. Je suppose que j'ai pas le choix. Alors, voyons voir. Hier, manifestation, violence... Ah non, ça je peux pas le dire. Ça non plus. Ah, puis si je mets ça, ils vont encore râler. Bon. Bah voilà. C'est pas fameux, mais au moins ça vexera personne et je garderai mon boulot. Oh. Heureusement que j'ai pas à faire ça tous les jours.
Alors, voyons voir. Hier, il s'est passé des trucs en ville. Il y a des blessés. La presse, c'est plus que c'était, hein.
Nous venons d'entendre une fiction réalisée par Valentin avec ses pop interrogations de journaliste, en tant que rédacteur en chef de Holy Stone, le journal du lycée Saint-Pierre. Laissons maintenant la parole à Alison, passionnée de musique, qui s'est intéressée à la question de la censure dans la chanson. Vous avez entendu toutes ces chansons et vous les avez peut-être reconnues ? Eh bien, vous ne saviez peut-être pas qu'elles ont été toutes censurées d'une manière ou d'une autre.
Censure, c'est un mot qu'on entend beaucoup depuis le début de l'émission et qui a tendance à faire peur. La censure, c'est la décision des autorités de ne pas diffuser un propos. C'est quelque chose de présent dans la vie de tous les jours. C'est aussi le cas dans la musique. Parfois, des chansons sont censurées à cause des messages qu'elles font passer. J'ai décidé aujourd'hui d'en sélectionner quelques-unes pour vous faire écouter ce qu'était la censure dans la musique et ce qu'elle est encore aujourd'hui. La politique, c'est LE sujet le plus touché par la censure. C'était un sujet très sérieux à l'époque et c'était l'État qui gérait la censure. Boris Vian, écrivain, poète et parolier célèbre des années de l'après-guerre, en a fait les frais. La chanson « Le déserteur », qu'il reprend et interprète lui-même en 1954, est censurée. Cette chanson parle d'un homme qui refuse d'aller à la guerre. Publiée après la guerre d'Indochine, et notamment une défaite française qui a causé la mort de 1500 soldats français. À cette époque, c'est aussi le début de la guerre d'Algérie. Dans les paroles, Boris Vian explique que trop de gens sont morts pour la guerre et qu'il refuse de se battre encore pour tuer de pauvres gens et sacrifier sa vie. C'est le livre « Sans chansons censurées » d'Aurélis Vez et Emmanuel Pira aux éditions Hoébec qui parle de cet exemple. On écoute tout de suite un extrait.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
On traverse maintenant la Manche pour parler des Sex Pistols. Ce groupe anglais fait partie du mouvement punk. D'après le livre « Le rock et son histoire » d'Andrea Bergamini aux éditions Massin, c'est un mouvement de la jeunesse anglaise qui se révolte contre le système. L'Angleterre, c'est le lieu de naissance du mouvement punk. À cette époque, le chômage est très haut, c'est la crise et les jeunes ont peur pour leur avenir. Le mot punk signifie vaurien, minable. En 1977, les Sex Pistols, un des groupes punk mythiques, sortent God Save the Queen, Dieu sauve la reine en français, c'est le nom de l'hymne national anglais. C'est la National Coalition Against Censorship, soit la Coalition Nationale contre la Censure, qui parle de cette chanson. Dans cette dernière, il se moque de la reine. « She ain't no human being », elle n'est pas un être humain. Il critique aussi le pays « In England's Dreamland », dans le pays féerique de l'Angleterre. Écoutez. Le deuxième sujet le plus censuré, c'est la sexualité. C'est quelque chose de privé et on n'en parle pas pendant une bonne partie du XXe siècle. Alors, quand Boris Vian sort la chanson « Fais-moi mal, Johnny » en 1955, la chanson est censurée directement. Les paroles sont crues, elles racontent l'histoire d'une femme qui a des rapports sexuels avec un homme qu'elle connaît à peine. Pas besoin de plus pour que la chanson soit interdite à la radio.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé. D'un air farouche, je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche.
En lien avec la sexualité, on a aussi la contraception. Dans les années 60-70, c'était le début de ce qu'on peut appeler la révolution sexuelle, d'après le site sciencesumaines.com. Tout doucement, les langues se délient. Les jeunes contestent l'autorité de leurs parents et le mouvement hippie est créé aux États-Unis. Les jeunes ne veulent pas s'engager dans la guerre du Vietnam à cette époque. Le slogan mythique qui le montre, c'est « Peace and Love », traduit par « Faites l'amour, pas la guerre » en français. Les jeunes commencent à vivre des vies sexuelles assumées. Elles ne sont plus bloquées par la religion et la société. Plus d'obligation réelle d'être vierge jusqu'au mariage, et c'est à cette époque que la contraception prend de l'importance et est commercialisée aux États-Unis en 1960. Les femmes qui l'utilisent sont toujours mal vues. Les États-Unis restent un pays conservateur à cette époque. Quand en 1975, Loretta Lynn sort « The Pill », la pilule en français, elle est censurée. C'est pourtant 15 ans après l'autorisation de la pilule dans ce pays. La chanson parle d'une femme qui assume sa vie sexuelle librement grâce à la pilule contraceptive, ce qui était mal vu après tout ce temps. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. Comme on vient d'en parler avec la chanson The Pill, la religion et les conservateurs ont une place importante aux États-Unis. En 1966, quand God Only Knows des Beach Boys sort, elle est censurée. Le titre signifie Dieu seul sait. La chanson est considérée comme un blasphème car le boys band américain utilise le nom de Dieu.
good long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Mais des sujets moins importants peuvent aussi entraîner de la censure. C'est le cas du placement produit avec Lola des Kinks, qui fait rimer le nom de la chanson avec celui d'une fameuse marque de soda.
I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. La 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 Lola.
Et aujourd'hui, Alison?
Actuellement, peu de chansons sont censurées. La liberté d'expression à travers la musique est beaucoup moins attaquée qu'avant. Un des derniers cas en date qu'on écoutera, c'est Paper Planes de M.I.A., sorti en 2007. La raison? On entend des bruits d'armes à feu. Résultat, elle a subi la censure américaine. Pourtant, aux États-Unis, le port d'armes à feu est autorisé dans leur constitution. C'est un droit d'en posséder une, et le nouveau président Donald Trump est d'ailleurs pro-armes. La censure pour cette chanson est donc plutôt étrange dans ce pays. Certains sujets ne sont pas censurés par les médias, mais par le public. Jacques Brel a par exemple dérangé pour une question de virilité. Et oui, c'est pour ça qu'en 1959, un de ses titres les plus célèbres, « Ne me quitte pas », n'est pas au départ très apprécié d'après un article du Figaro. Il est montré comme faible dans cette chanson, triste et soumis à l'amour. Et ça ne plaît pas aux mentalités de l'époque. L'homme est le chef de famille, la personne qui travaille, ramène l'argent à la maison. Il ne doit jamais être comparé à un lâche. Dans sa chanson, Jacques Brel fait face à ses sentiments. L'image de l'homme en France en prend un coup. Mais ça n'empêchera pas sa chanson de connaître un immense succès. On écoute tout de suite un extrait.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
La censure dans la musique, ça peut donc concerner plein de thèmes, la politique, la sexualité, le genre, la religion. On reste dans la culture avec l'interview de Vincent Rochelecka, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Il est interviewé par Corentin.
Quel est le public de ce théâtre?
Il est pluriel, hein. Il y a quand même 40 000 individus qui mettent le pied dans ce théâtre par an, donc forcément ça embrasse un champ large de la société, pas assez large selon nous, on aimerait élargir encore un peu plus et que certains qui n'y mettent jamais les pieds y mettent le pied, mais non, on a une représentativité sociale assez large quand même de la petite société burgienne.
Est-ce que vous choisissez le programme et les pièces que vous représentez par rapport justement au goût de ce public de fidèles ?
Ah bah c'est uniquement pour le goût du public, puisque du coup moi je choisis pas les pièces pour moi-même, mais bien pour le public. Alors après les goûts sont aussi pluriels, donc c'est pas pour tous les goûts que je choisis, je m'explique. Il me semble que sur un théâtre public on a pas seulement la mission de divertir et de faire oublier la vie qui est pas simple, mais peut-être aussi un peu de cultiver une curiosité, de cultiver une intelligence, cultiver une ouverture à l'autre.
Est-ce qu'il y a des règles sur une scène de théâtre, des choses qu'il est interdit de dire ou qu'il est interdit de faire ?
Non, c'est justement la force d'un plateau, c'est que c'est la vie et que dans la vie on a le droit de tout faire. Après, il y a des limites dans la vie, il y a des limites sur un plateau de théâtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à heurter l'individu et l'autre, que ce soit dans la vie ou que ce soit sur une scène de théâtre, ça commence à devenir compliqué. Mais il n'y a pas d'interdiction en soi. Alors après, il y a des spectacles qui, selon leur contenu, selon leurs propos, sont plus ou moins adaptés à certains publics. Je pense notamment au niveau des âges. Il y a des âges, comme tout type d'œuvre ou de médias, il y a des à partir d'eux où on n'est pas sur des interdits en dessous d'eux, mais on est plutôt sur des fortement conseillés à partir d'eux, parce qu'au-delà de propos qui pourraient être mal interprétés, on est aussi et surtout sur des propos qui pourraient être mal compris. Un projet sur lequel il y a énormément de textes, pour un petit bout de chou de 3 ans, ça n'a pas beaucoup de sens.
Et dans un domaine plus précis, est-ce qu'il y a des règles qui sont officielles ou alors qui sont fixées par votre théâtre par rapport aux revendications politiques qu'il pourrait y avoir dans certaines pièces ?
Oui, alors après on est un espace public, un espace laïque. Donc on essaye de faire très attention sur toutes les formes de prosélytisme et d'endoctrinement, notamment dans des discours très, très trop didactiques et très fléchés. On essaye qu'il y ait une représentativité des points de vue. Donc évidemment qu'on s'applique sur notre scène ce qu'on essaye de s'appliquer dans tout espace public, en ce sens qu'on est garant en tant que mission de service public, théâtre public, avec des financements publics et porté par des missions, par les pouvoirs publics, on est garant de la représentativité tout en étant très vigilant sur le fait que ça s'adresse à tous.
Et justement, par rapport à ces financements publics, donc le théâtre de Bourg, il est financé par le ministère de la Culture, la région, le conseil départemental, l'Union européenne et la ville de Bourg. Mmh. Est-ce que ce financement ne crée pas un risque de dépendance ou certaines limites ?
Ah si, forcément. Forcément. Après, pas plus que tout type d'espace public, pas plus que l'école et pas plus que la vie en groupe citoyenne de sur une place ou n'importe où. Le champ des possibles reste très ouvert dans le respect de l'individu. Donc est-ce que c'est le lien au pouvoir public qui du coup limite le pouvoir de parole ? J'en suis absolument pas sûr. C'est pas parce qu'on est dans un cadre privé qu'on a le droit de tout se permettre. À partir du moment où il y a quand même des droits de l'homme, des textes fondateurs, des textes directeurs. Et c'est pas parce qu'on est dans un cadre protégé privé qu'on peut tout se permettre, puisque ce qui nous engage au-delà de la puissance publique, c'est le respect de l'individu.
Est-ce que vous avez déjà refusé de programmer une pièce ?
Il y a forcément certaines pièces sur lesquelles je me suis dit c'est pas une bonne idée. Alors est-ce que c'est refusé ? Je sais pas.
C'était à cause de leur contenu ?
Oui, à cause de leur contenu, en ce sens que je l'ai trouvé encore une fois trop stigmatisante ou en tout cas adressée à certaines franges de la population, et c'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'animer un espace public pour tous. Et donc du coup, je ne me refuse aucune pièce à partir du moment et d'aborder aucun sujet, et notamment les sujets les plus difficiles, puisque il m'est arrivé plusieurs fois de programmer des pièces sur l'inceste, sur l'aliénation au travail, sur la manière dont parfois la société peut se créer des boucs émissaires et les malmener de manière assez puissante. Donc je me suis refusé aucune thématique aussi joyeuse que celle que je viens d'expliquer, mais c'est plutôt après sur le traitement. C'est vrai que quand quand on est trop didactique, trop stigmatisant, et que qu'on s'enferme dans une adresse au public, je trouve que du coup ça ne répond pas à la mission qui est la mienne. Donc en ce sens, je m'y refuse, et c'est pas que le propos va trop loin, c'est que le propos est mal tourné.
Parmi les sujets qui font souvent polémique, on pense à la politique et la religion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui reviennent ?
Je pense au traitement des animaux sur scène. Il y a certains spectacles qui malmènent un peu quelques animaux et du coup il y a eu des associations qui se sont mobilisées et des spectacles annulés. Il y en a un autre qui revient pour le coup très très souvent, c'est la problématique de la nudité sur scène. Il y a énormément de créateurs qui ont besoin de montrer le corps dans son plus simple appareil pour servir un propos. J'ai eu plusieurs expériences de problématiques liées à la nudité sur des plateaux, mais notamment une très dernièrement au Théâtre de Bourg il y a 15 jours dans le cadre d'un spectacle de Fédo où il y avait une scène de nu. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques spectateurs qui ont marqué leur incompréhension, voire leur désintérêt, voire leur mécontentement à l'issue de la pièce. Après, c'est vrai que autant je suis vigilant sur le fait que les spectacles parlent au plus grand nombre et pas qu'à certains, je ne vois pas en quoi la nudité serait un endroit problématique à partir du moment où elle n'est pas érotique ou vulgaire. Et si elle est érotique, on fait attention par rapport à l'âge pour lequel on propose ce spectacle. Et si elle est vulgaire, si ça sert un propos, si c'est fait de manière intelligente, je ne vois pas pourquoi je me refuserais de programmer un spectacle parce qu'on voit un corps nu. Après, le public n'est pas toujours du même avis que moi.
Qu'est-ce qui a choqué dans cette nudité? Les gens qui ont exprimé leur mécontentement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Bah que montrer un sexe alors qu'il n'y a pas que des adultes dans la salle, c'est problématique. Donc ça pose une question plus profonde. Est-ce qu'il faut être majeur pour découvrir le sexe d'un adulte? Voilà, je pose la question et j'ai une intuition sur la réponse. Il y a quand même une éducation à la sexualité et au corps humain. Alors moi, c'est pas dans ce cadre-là que je proposais le projet. C'est pas pour que les jeunes découvrent un sexe d'homme que j'ai proposé ce spectacle. Mais n'empêche que me faire rétorquer que attention, c'est problématique de voir un sexe sur scène à partir du moment où il n'y a pas que des adultes en salle. Alors il y avait pas des bouts de choux, il y avait quelques ados et du coup forcément en plus dans une appropriation du corps quand on est en train de changer et qu'on est en période de maturité. Alors je ne vous cache pas que les ados se sont très très marrés, beaucoup amusés, parce qu'il y a une gêne qui se crée, parce qu'on est en recherche de soi, me semble-t-il, quand on est entre deux âges, dans ce bel âge de l'adolescence. Donc du coup, il y a eu des réactions assez fortes et amusées des adolescents, mais il y a eu des réactions très gênées des enseignants ou de certains adultes, parce que tout le monde n'est pas au clair dans notre société, sur les espaces publics, dans le rapport à la nudité. Donc après, à chacun d'en faire son avis. Moi, en tout cas, je refuse de me couper de certains projets de qualité parce qu'il y a un nu sur scène.
Merci à Vincent Rochelecca, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse, pour son témoignage. Toujours dans le monde de la scène, une fiction réalisée par Benoît qui, par l'intermédiaire de Coluche, répond à des interrogations. Voici l'exemple d'un personnage qui, lui, ne s'auto-censure pas.
C'est fou. Aujourd'hui, il n'est plus possible de dire quelque chose publiquement sans qu'on nous colle un procès. Et en ce moment, c'est la femme égale à l'homme. Je suis pour, mais là, la société remet tellement toujours ça sur le tapis, et j'en ai marre.
Moi, je dis que les femmes seront l'égale de l'homme le jour où elles accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué.
Ah, tu es là, toi. Ça faisait longtemps, tiens.
En fait, toutes ces choses qu'on a du mal à regarder en face, essayant de les ignorer pour écarter toute culpabilité, on appelle ça l'autocensure. Et ça, ce n'est rien que de l'ignorance et du déni de soi. Et toi, Coluche, comment tu te sentais quand les gens te voyaient, t'ignoraient alors que tu n'avais rien, pas même un sourire?
Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours.
Le pire, c'est que ça se passe au sein même de notre champ de vision. Ce qui se passe plus loin encore, c'est moins prioritaire pour celui qui a le sens des réalités.
Plus on est de fous, moins y a de rire.
Au moins dans tes spectacles, tu disais les choses et on en riait. C'était un rire coupable mais qui venait du cœur. Tu mettais au premier plan ce que notre auto-censure essayait de refouler au plus profond. Heureusement que tu n'es plus là pour voir les prochaines élections. Il y a du beau monde, qui a fait, soi-disant, les plus grandes études françaises. Si tu te présentais encore cette fois-ci, tu les aurais gagnées, crois-moi.
Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent.
Ça doit être un métier difficile, je peux dire. C'est pas vrai. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers.
Là, tu fais ta campagne droite et ton mandat entier va de travers. On vote pour le moins con. Ou la moins conne, s'il y a des féministes dans le lot. Tu te rends compte? On m'a déjà dit, c'est à cause de la crise que tout va de travers.
Pareil que la crise, là, ça rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Moi, je vois pas en quoi c'est une crise. Hein.
On est d'accord. La crise, c'est juste un mot inventé pour justifier un déficit mondial et pour justifier une mondialisation capitaliste. Nous, on a le beau rôle, celui d'esclavagiste.
L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en.
Et résultat, pour montrer qu'on n'est pas content et qu'on se soucie des autres, et surtout de soi, on fait des manifs, même si on sait même pas pourquoi. Mais faut les faire. On se censure pour ce qu'on sait, et on ouvre sa gueule pour ce qu'on sait pas.
La formule, c'était « rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir hein ».
Faut pas s'auto-censurer. Au moins, quand je suis avec toi, on dit les choses. Crois-moi, mon cher Coluche, on est dans un monde instable. Mais là, on est dans une instabilité qu'on peut résumer par des meilleurs qui tapent sur des nuls. Des bombes, en fait. Sur des gens qui pensent différemment. C'est une solution ?
Il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
Et c'est ce que tout le monde pense. Et se pose donc la question des migrants, que tout le monde voit comme une menace, comme une ombre qui plane au-dessus du pays. Cette menace englobe la France.
Un arabe inculpé de corruption de fonctionnaires. Il avait donné un sucre à un chien policier, ça peut arriver.
C'est exactement ça. Une diapolisation de l'espèce humaine. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que ces problématiques sont actuelles. Alors qu'il y a 40 ans, à ton époque, c'était les mêmes. Et résultat, ça passe sur la religion, la laïcité. Ou comment intégrer la religion musulmane dans le territoire.
Il a dit Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. Et plus on le cherche, moins on le trouve.
C'est vrai qu'avec tous ses fidèles, il pourrait faire un peu plus le barbu. Et tout ça, ça mène au racisme.
Ah, moi, je veux pas m'engueuler avec les gens, hein. Non, y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France, hein.
Fais gaffe à ce que tu dis, quand même. Même si tu n'as pas tort. Faut espérer que tout ça sorte pas au grand public. Parce que si c'est le cas, je vais avoir le coup de fil de pas mal d'assos. T'as une belle phrase de sortie ?
Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.
Allez, sur cette belle note positive, repose en paix, vieux.
La fiction que Benoît vient de nous proposer a fait sortir Coluche de sa tombe pour nous rappeler que le combat de cet humoriste est intemporel, qu'il est encore possible de ne pas s'auto-censurer. Et enfin, une dernière fiction réalisée par Mélodie, Allison et moi-même, sur le thème de la censure à travers un regard masculin.
Hé, hey, regarde les cheveux de ce mec. On dirait une fille.
Hé, hey, mademoiselle, ton copain, il kiffe tes cheveux ou pas?
Ouais, vas-y, casse-toi.
Pourquoi vous lui avez parlé comme ça?
T'as vu sa tête, sérieux? À sa place, j'aurais honte.
Y a des choses qui se font pas. Je veux dire, t'es un mec, tu dois être viril. Je vois pas pourquoi t'irais te faire pousser les cheveux longs et même porter du vernis pendant que t'y es.
Comment ils peuvent dire ça? Ce pauvre mec, il leur a rien demandé et il s'en prend plein la tête.
T'es d'accord avec nous, hein?
Ouais, grave.
Et à la limite, ça serait beau. Mais là, c'est vraiment dégueu. Je suis sûr qu'il est gay en plus.
Arrête, tu me dégoûtes. Oh.
Moi, je trouve ça beau, ses cheveux. Ça lui va bien. Et puis, en quoi avoir les cheveux longs, ça fait de lui quelqu'un de gay? Pourquoi son apparence définirait avec qui il sort?
T'es pas d'accord avec nous?
Bah, je sais pas, je veux dire...
Eh, parce que sinon, tu peux aller traîner avec lui, hein.
À ce moment même, j'hésite.
Oh, oh, t'es d'accord avec nous?
Ouais, bien sûr.
Nous avons pu comprendre que l'autocensure était présente dans différents milieux et sous différentes formes. Mais n'oublions pas, en guise de conclusion, d'écouter les conseils de Bob Marley. Affranchissez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous ne pourra libérer nos esprits. C'est la fin de notre émission. Nous remercions toute l'équipe de Radio B, Audrey, Élodie et Pauline, pour leur aide précieuse et leur patience. Claudine Révillon, professeure au lycée Saint-Pierre, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Nos invités, Vincent Rochelika et Ras Romani. Et merci encore à Jules pour le générique de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur le site radio-b.fr dans la rubrique « Les ateliers de Radio B ».